Dans beaucoup de pays d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique latine, l'entraide est une condition sine qua non de survie pour les petites gens. Par contre, en Europe et dans les nations industrialisées, où l'individualisme est roi, ou au moins prince, tout le monde essaye le plus possible de se passer des autres. Mais cette attitude suffisante est plutôt un recul social parce que les êtres humains sont faits pour coopérer ensemble. Dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a pas de place pour les francs-tireurs car les Écritures enseignent que nous avons besoin les uns des autres et devons nous serrer les coudes afin de remplir notre mandat qui est d'annoncer la bonne nouvelle à toute créature. Je continue à lire dans la troisième épître de Jean. C'est donc notre devoir d'aider de tels hommes. Ainsi, nous collaborerons à ce qu'ils font pour la vérité. Verset 8. L'apôtre qui écrit à son ami Gaius l'a félicité parce qu'il était toujours prêt à contribuer au soutien de ceux qui étaient de passage dans sa ville dans le but d'évangéliser ou d'enseigner la vérité. Maintenant, Jean étend ce devoir d'accueil et de solidarité à tout croyant. En effet, toute personne qui appartient à Jésus-Christ est automatiquement incorporée dans son armée, car faut-il le rappeler, nous sommes engagés dans une lutte sans merci contre les puissances des ténèbres. Ceux qui partent sur le front pour annoncer la bonne nouvelle du Sauveur ou renforcer la foi de ceux qui sont en première ligne ont besoin que l'intendance suive et que toute une logistique se mette en place pour eux et qu'elle soit fonctionnelle. Quand j'étais militaire, on nous a envoyés en plein hiver quelque part dans le nord de l'Allemagne dans un trou perdu surnommé la Petite Sibérie. J'ai fait mon paquetage, j'ai été chercher mon flingue, on a mis un camion entre mes mains et on m'a dit « tu suis la Jeep qui sera devant toi ». Je n'ai pas fait de provision pour la route et je ne savais même pas combien de temps le voyage durerait ni quelle serait la durée des manœuvres. Pourtant, je n'étais aucunement inquiet parce que je savais que quelqu'un s'occupait de la bouffe et que nous aurions 3 repas par jour. Froid peut-être, mais quelque chose à manger quand même. J'étais en mission, mais pas abandonné. C'était pas le grand luxe puisqu'on a dormi dans les camions alors qu'il faisait moins 20 dehors. Mais tous nos besoins étaient pris en compte. L'apôtre Paul écrit « Dites-moi, avez-vous jamais entendu parler d'un soldat servant dans une armée à ses propres frais ou d'un vigneron qui ne mangerait pas des raisins de la vigne qu'il a plantée? Quel berger élève un troupeau sans jamais profiter du lait de ses brebis ?» Plus loin, l'apôtre ajoute « De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent la bonne nouvelle, vive de cette annonce de la bonne nouvelle. » Et à son disciple Timothée, il dit « Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. » Les disciples de Jésus-Christ doivent être prêts à aider avec leurs ressources, leur temps et leurs deniers ceux qui sont sur le champ de mission pour annoncer la bonne nouvelle ou pour enseigner. Certains croyants s'engagent à servir le Seigneur à plein temps, loin ou près, et dans des capacités très variées. D'autres exercent simplement un métier séculier là où ils se trouvent, mais ils sont aussi appelés à participer à l'effort commun en priant pour les soldats qui sont en première ligne et en ouvrant leur maison et leur porte-monnaie pour les soutenir matériellement. Que les croyants partent au loin ou qu'ils restent dans leur camp de base, ils sont tous engagés dans un même combat et appelés à œuvrer ensemble pour la vérité. Comme le dit si bien l'apôtre Paul, dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Oui, mais voilà, entre la façon dont les croyants devraient se conduire et comment ils agissent véritablement, il peut y avoir un écart considérable à cause du péché qui est encore très actif dans nos vies. C'est malheureux à dire, mais la caractéristique qui définit le mieux le cœur humain, y compris celui des croyants, est l'orgueil. C'est ce qui pousse les gens à se désintéresser de Dieu, à lui être infidèle, ingrat et à l'offenser. C'est par orgueil que Satan a cherché à s'élever au-dessus de Dieu. C'est par orgueil que les êtres humains font grand cas de leur personne, s'exaltent eux-mêmes et veulent s'élever au-dessus des autres en occupant une position bien en vue, de pouvoir et d'influence. Tous ceux qui donnent libre cours à leur orgueil entrent dans le panthéon de la honte. Si Ève a mangé du fruit défendu, c'est par orgueil, car elle a cru le mensonge de Satan qui lui a promis qu'elle deviendrait sage comme Dieu. Après l'histoire d'Adam et Ève, la race humaine a dégénéré encore davantage. Lémec, descendant de Caïn, fut un meurtrier comme son ancêtre et le tout premier polygame. C'est lui qui a écrit le poème le plus ancien de l'histoire de l'humanité qui est parvenu jusqu'à nous. Et on pourrait lui donner pour titre « Éloge d'une arrogance meurtrière ». Je lis ce texte. Lémec dit à ses femmes « Ada et Tsia, écoutez-moi bien, femme de Lémec, et prêtez l'oreille à ce que je dis. J'ai tué un homme pour une blessure et un jeune enfant pour ma plaie. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. » Après Lémec, on s'enfonce toujours davantage dans l'infamie avec l'arrivée sur scène de Nimrod, un nom qui signifie « rebelle ». Il a l'honneur d'être le premier grand tyran qui est sorti de l'humanité. Décrit comme exerçant un grand pouvoir sur la Terre, son orgueil démesuré l'a propulsé à la tête du premier empire que le monde a connu. Décidé à rivaliser avec Dieu, il est l'architecte de la tour de Babel, érigée en l'honneur de l'orgueil des hommes et de leur rébellion contre le Créateur. C'est également Nimrod qui est l'ancêtre des hommes qui créeront les empires assyriens puis babyloniens. Après être devenu le grand patron du Moyen-Orient, Nabuchodonosor a fait une crise de mégalomaniaquerie. Un jour qu'il se promenait sur le toit de son palais de Babylone, il prit la parole et dit « N'est-ce pas la Babylone la grande que moi j'ai bâtie pour en faire une résidence royale? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. » Mais l'Éternel n'a pas du tout apprécié l'arrogance de ce roi et lui a rabaissé le caquet en 2 temps 3 mouvements. Le texte dit « Ces paroles étaient encore sur ses lèvres, qu'une voix retentit du ciel. « Roi Nabuchodonosor, écoute ce qu'on te dit. Le pouvoir royal t'est retiré. On te chassera du milieu des humains, et tu vivras avec les bêtes sauvages. Tu te nourriras d'herbes comme les bœufs. Tu seras dans cet état durant 7 temps, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. » Au même instant, la sentence prononcée contre Nabuchodonosor fut exécutée. Dans un évangile, Jésus appelle le roi Hérode Agrippa un renard. Oui, mais il a aussi fait le beau comme le corbeau de la fable de La Fontaine. Très prétentieux, il décida un jour de donner une fête en son honneur. Tandis qu'il faisait un discours éloquent, ses sujets, ravis et incapables de se contenir, s'écrièrent « Ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix d'un dieu !» Au même instant, un ange du Seigneur vint le frapper parce qu'il n'avait pas rendu à Dieu l'honneur qui lui est dû. Dévoré par les vers, il expira. La fête n'était pas censée se terminer d'une manière aussi abrupte et inattendue. Le corbeau n'a perdu qu'un fromage, mais Hérode son plumage. Jésus a bien décrit l'esprit orgueilleux des pharisiens quand il a dit « Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi les petits coffrets à versets qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres, et les franges de leurs manteaux plus longues. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle « maîtres ». Même les disciples de Jésus étaient teintés d'ambition orgueilleuse. La mère de Jacques et Jean est venue voir le Seigneur en compagnie de ses deux fils et lui a demandé « Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Cette femme qui servait Jésus a tout simplement tenté de le manipuler. Mais au lieu de se fâcher, le Seigneur a utilisé cet incident pour enseigner l'humilité. Il a réuni tous ses disciples et leur a dit « Vous savez ce qui se passe dans les nations, les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Le despote dont il va maintenant être question dans la troisième épître de Jean est le descendant direct d'une longue lignée de dictateurs qui sont animés par le désir d'avoir la prééminence par tous les moyens. Jean a commencé sa petite lettre par « ce qui est agréable à entendre ». Il a complimenté Gaius pour son attitude pleine d'attention à l'égard des prédicateurs itinérants et a tiré les enseignements de sa conduite exemplaire. Mais le ton de la lettre change brusquement, parce que Jean est obligé d'aborder le sujet épineux du moment, les méfaits d'un certain Diotrèphe. Bien plus ennuyeux qu'un cheveu sur la soupe, ce sombre personnage a noirci les pages du Nouveau Testament en tant que contre-exemple, c'est-à-dire ce qu'il ne faut ni être ni faire dans une assemblée chrétienne. Je continue à lire le texte de 3 Jean. « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrèphe, qui aime être le premier, ne tient aucun compte de nous. » Verset 9. « Tout comme Moïse est l'auteur de 5 livres de l'Ancien Testament, Jean en a également écrit 5. » D'abord l'Évangile, puis l'Apocalypse et enfin les 3 épîtres vers la fin du 1er siècle. Si, comme on le pense, ces 5 œuvres ont été composées dans l'ordre que je viens d'indiquer, la 3e lettre de Jean est son chant du cygne. Nous avons donc devant nos yeux les derniers mots du grand apôtre. On aurait pu penser que, tant qu'il était encore en vie, tous les responsables d'Église du 1er siècle auraient marché droit en obéissant au doigt et à l'œil à ses exhortations, tout comme le cher Gaius. Mais ce n'était évidemment pas le cas. Le contraste entre Gaius le juste et Diotrèphe l'impie est frappant, car ils sont aux antipodes l'un de l'autre. Alors que le premier est hospitalier, plein de grâce, l'autre est son contraire. Gaius aime la vérité et Diotrèphe adore se regarder dans une glace, en fait du bronze poli, et il est émerveillé par ce qu'il voit, car il s'aime lui-même. Il se sert de la position d'autorité qu'il a réussi à usurper, probablement par l'intimidation, pour tyranniser l'Église. Jean ne réprimande pas Diotrèphe pour une hérésie, mais pour son arrogance. L'apôtre dit avoir déjà écrit une lettre à l'Église. Et comme il utilise le singulier pour ce mot, c'est qu'il parle de la même assemblée dans toute la lettre, celle dont Gaius fait partie. Mais il ne semble pas que ce dernier ait été au courant de l'existence de cette lettre, bien qu'elle ait été adressée à l'assemblée, dont Gaius est l'un des responsables. Cette lettre s'est donc perdue et tout porte à croire que Diotrèphe l'a interceptée. En tout cas, Jean explique brièvement à son ami Gaius ce qu'il en est de Diotrèphe, un nom qui signifie « nourri de Zeus » et qui était aussi rare que Gaius était courant. On pense que le nom Diotrèphe n'était donné qu'à certains enfants de familles nobles. Si c'est le cas, cela expliquerait d'où lui vient son arrogance. La description que Jean fait de Diotrèphe, à savoir qu'il aime être le premier, est au cœur même du problème. Cette expression est un participe qui décrit un gros égoïste totalement centré sur lui-même. En voulant être le premier, Diotrèphe rejetait les autres et les paroles de Jésus qui a dit « Celui qui s'élève sera abaissé ». Beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers. Dans le Nouveau Testament, le mot grec pour « le premier » n'apparaît qu'ici et dans une épître de Paul, où il est question de la prééminence de Jésus-Christ parce qu'il occupe le premier rang en tout. Indirectement, Jean accuse donc Diotrephe d'usurper la place de Jésus. C'est très grave. Par son ambition personnelle et le pouvoir despotique qu'il exerce au sein de l'Église, qu'il dirige à sa manière, Diotrephe occupe effectivement le rôle du Seigneur en tant que chef de l'Église. Il n'est donc pas surprenant qu'il n'accepte pas l'autorité apostolique de Jean et ne tienne aucun compte de ses paroles. Je continue le texte de 3 Jean. « Aussi, quand je viendrai, je rendrai les autres attentifs à sa manière d'agir. Il tient de méchants propos contre nous, et, non content de cela, il refuse de recevoir les frères de passage. En plus, ceux qui seraient désireux de les accueillir, il les en empêche et les chasse de l'Église. » Verset 10. Jean a bien l'intention de dénoncer publiquement devant l'Assemblée l'arrogance démesurée de Diotrephe, afin que des mesures disciplinaires soient prises contre lui. C'est ainsi que toute Église qui suit le modèle du Nouveau Testament devrait fonctionner. L'apôtre Paul écrit à Timothée « Ceux qui ont péché, reprends-les devant tous, afin que cela inspire de la crainte aux autres. » C'est ce que Paul avait lui-même fait dans l'Église de Corinthe. Indirectement, Jean sollicite le soutien de Gaius, qui, à cause de ses richesses et peut-être de sa position sociale, est bien placé pour lancer un défi à l'autorité de Diotrephe. En quelques mots, Jean adresse 4 reproches à Diotrephe. Premièrement, il s'est rendu coupable de tenir contre lui de méchants propos. La diffamation est l'arme qu'emploient de préférence les politiciens et tous ceux qui cherchent à s'élever au-dessus des autres. Au lieu de gagner la confiance en manifestant un caractère vertueux, les médisants tentent de démolir la confiance des gens en d'autres qu'eux. Le verbe grec rendu par « en tenant contre nous de méchants propos » n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament. Mais un mot similaire est rendu par « parler à tort et à travers » dans l'une des épîtres de Paul. Les accusations malveillantes de Diotrephe contre Jean sont perverses, fausses et diffamatoires. S'il s'attaque sauvagement à lui, c'est parce qu'il le perçoit comme une menace pour son pouvoir et son prestige au sein de l'Église. C'est aussi ce qu'avaient fait les faux enseignants contre Paul dans l'Église de Corinthe. Les Écritures condamnent sévèrement et de manière répétitive toute forme de calomnie et de médisance. Deuxièmement, et comme cela a déjà été dit, Diotrephe refuse de recevoir les prédicateurs itinérants qui proclament pourtant la vérité de l'Évangile. Troisièmement, et c'est encore pire, il interdit aux membres de l'Église d'exercer l'hospitalité envers les frères de passage en les intimidant. Quatrièmement, il met le comble à son ignominie en utilisant sa position pour excommunier ceux qui oseraient lui tenir tête. Il va sans dire que, par son comportement odieux et en refusant le gîte et le couvert aux prédicateurs, Diotrephe freine la progression de la parole de Dieu. Mais on peut être sûr que c'est son dernier souci, parce que sa devise est « diriger ou détruire ». Ce tyran n'est rien d'autre qu'un hooligan agressif qui défend son turf contre ceux qu'il perçoit comme une menace pour son pouvoir. Il a l'attitude du dictateur ecclésiastique qui aime se mettre en évidence, qui refuse de servir qui que ce soit et qui veut qu'on soit à son service avec tapis rouge et sonnerie de trompette. Prétentieux et sûr de lui, Diotrephe fait le beau, aime s'entendre parler et n'a besoin de personne. Il fait penser à la fable de la fontaine, de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Sa conduite est peut-être banale en politique, mais scandaleuse dans l'Église de Jésus-Christ. On comprend aussi pourquoi Jean dit à Gaius de ne pas se laisser intimider par ce tyran, de tenir ferme et de continuer son ministère d'hospitalité. L'orgueil et la soif de pouvoir sont souvent à l'origine des conflits humains, y compris dans les assemblées chrétiennes. Le plus tragique est que par crainte de la confrontation ou au nom de la tolérance, les responsables des églises refusent de prendre les mesures nécessaires à l'égard de leur diotrèphe. Jean, par contre, n'a aucune intention de se laisser marcher sur les pieds. Il va confronter cet impie pour le bien de l'Église et pour l'honneur de Jésus-Christ. Le responsable d'Église, mais aussi le musicien et celui ou celle qui a une belle voix, ainsi que tous ceux qui ont un talent quelconque, peuvent être tentés de se croire supérieurs aux autres et vouloir se hausser au-dessus d'eux. Cependant, Jésus a dit « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous ».